pense que pour avoir la lutte, cette analyse par les expériences que vous avez, simplement la lecture des journaux ou de ce que vous entendez à la radio ou à la télévision, de ce qui se passe à la Knesset, et de la manière dont un régime apparemment impossiblement démocratique, je ne crois pas qu'il existe dans un pays au monde une laïcité démocratique comme Israël, finalement capote sur lui-même parce qu'il donne tous ses pouvoirs à la dictature des juges. Et or, les juges décident d'après leur sensibilité de la lettre de la loi et pas du tout d'après le sens des principes au nom desquels la loi a été votée. Je pense que c'est une chose. Bon, j'ai touché ici un problème très important pour l'actualité que nous vivons, mais pour revenir à notre sujet, c'est le lien qu'il y a entre la non-moralité, je n'ai pas dit l'immoralité, mais la non-moralité comme principe de régularisation, de régulation des relations sociales, et d'autre part, le dérèglement économique, c'était donc le verset de Ruth. Vaïr dimesh faut à shofti, al vaïr abba. C'est bon.
Non,
il ne faut jamais dire ça, parce que, d'après la halakha, il faut faire tout de suite un taratim d'avis. Parce qu'on peut dire anima amin ou anima amin avec une image de moi, qu'est-ce que gagne alors l'anima de quand on dit anima amin ou anima amin avec une image de moi, c'est le. Non, c'est le carré de la luna. Alors, il faut faire un taratim d'avis, il faut penser le jour de tout pour prochain, stop.
C'est nכון שיש
אבידון,
on voit
dans
le avant
la mise d'ordre, le binabasset,
et toujours
on fait ma question. Je vais la question, je veux dire, Mathias nous dit que c'est évident. Une fois qu'on a vu cette analyse, et l'expérience montre que c'est bien cela, il y a un lien entre l'état de la moralité et l'égalité d'un côté, d'autre part l'état de problèmes économiques, et mais quel est le lien? Comment intellectuellement comprendre, raisonnablement, rationnellement, comprendre le lien? Bakia a même donné une réponse en formulant sa question, Yada Al-Jaha. C'est-à-dire, au niveau de la. De nouveau, la conception claire du monothéisme absolu, il n'y a plus de problème. Hein. Le Dieu un est le même qui règle la vie morale et la vie économique. Je pense que c'est lui qui a créé les lois de la société humaine, en particulier la base du problème économique, ça fonctionne d'après les lois que le Créateur a mis dans son monde. Je résume, mais vous comprenez l'analyse. Et d'autre part, c'est lui qui a révélé les valeurs morales au long desquelles la société a se justifié dans le sens transitif de nous. Et, mais comment comprendre? Alors je reviens un peu en arrière. Je dis peut-être trop rapidement, nous sortons de l'histoire de 2000 ans d'une civilisation qui s'est constituée sur le principe opposé. C'est pourquoi notre raison de type occidental a une résistance à cette évidence au niveau rationnel. Un oriental ne poserait pas la question de qui comprend de qui, que ça va de soi, que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est dans notre, ce qui nous permet d'exister que nous sommes atteints lorsque le sens de notre existence est atteint. Que ce soit au niveau de la nourriture que s'exprime le dérèglement de la moralité au niveau de la société, ça va de soi dès qu'on comprend que Nida que Nigel Nida, où ça va clocher si le sens de l'existence est en question, c'est dans les moyens d'existence, c'est-à-dire de manger et boire. Ça, je pense même des paysans en Occident le comprendraient immédiatement. Parce que ce sont eux qui font la guerre à la nature pour faire pousser le pain. Et donc ils comprennent que si on n'a pas de pain, on mange plus. Mais seulement nous sommes devenus tellement artificialisés qu'on pourrait un jour acheter du pain en conserve, alors on ne verra plus le lien entre ce qui s'est passé dans la société et que la récolte de la récolte. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai rappelé cela dans l'analyse précédente, que c'est bien pour avoir un régime. Le problème moral que nous sommes donnés au problème économique. Si on récupère ce principe, alors on comprend que ce qui se passe au niveau du problème moral, c'est pris au niveau de la réalité économique. Je m'explique dans vous. C'est ça que je pense que. Là, je crois qu'il y a un chidouche par rapport à la mentalité occidentale. J'essaie de construire ça sous forme de raisonnement, finalement, philosophique, parce que la question métaphysique de fond est très importante. C'est un mystère. Les valeurs dépendent d'une quantité d'aliments. Quel rapport? Si je n'ai pas mangé ce matin, mon esprit raisonnable, est en synthèse. Quel rapport ? Donc il faut découvrir qu'il y a un rapport dans le sens d'une finalité. Tous les textes qui parlent de la différence entre les temps messianiques et les temps de Roland Mazé nous montrent cela, que dans les temps messianiques, nous n'avons plus à être justifiés par les autres. C'est la raison pour laquelle il n'y aura plus de Corban sauf le Corban Toba. C'est la raison pour laquelle il n'y aura plus de Hadim sauf Purim. Enfin, vous connaissez tous ces textes-là. Et puis, d'autre part, il n'y a plus de problème économique à régler. On pourra prendre la nourriture élaborée de façon très sophistiquée, ça s'appelle dans le groupe britannique des 12 salles, sur l'arbre à pain. Il y aura un arbre à pain. Surtout de la mort. Ça veut dire très clairement. L'homme sera disponible pour la vie de la relation à l'ordre des valeurs et n'aura plus à investir son temps de vie à perdre son temps pour gagner sa vie, c'est-à-dire finalement avoir du pain sur la table. Il n'y aura plus de problème économique et d'autre part, la moralité sera facile, facilitée. S'il n'y avait pas de problème économique, il se révélerait que l'homme est un saint. Mais c'est parce qu'un problème économique qu'il devient fabuleux. Vous avez compris, les mots sont un peu forcés. Est-ce que c'est clair? Quel?
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que de ce point de vue-là, le bien-être a besoin de prendre des jeunes dans une confiance?
Je n'ai pas compris la question. Le Birkat Amazon et les jeunes.
Les
jeunes, le fait de ne pas manger.
Parce que le Birkat Amazon fait le problème moral et parce que le jeune veut
faire prendre conscience. Oui, pas de cette forme-là. Je ne dirais pas de cette forme-là. Le lien est réel. Le Birkat Amazon, et ça nous le savons, c'est une avoda plus importante que la tefila elle-même. Pourquoi? Parce que c'est précisément l'établissement du lien du Haéré et de l'Adon à travers le fait d'exister, c'est-à-dire la nourriture qui me fait exister. C'est quand je prends conscience que je dois manger pour vivre que je sais que j'ai un créateur. Je suis devant le créateur plus au moment du Birkat Amazon qu'au moment du fond d'esprit. Au moment du fond d'esprit, c'est par délégation. Tandis qu'au moment du Birkat Amazon, c'est dans l'expérience même. C'est Achalmo Michelo, plutôt que Machmao. Je ne vous traduis pas parce que ça nous renverrait à l'église. Alors, j'ai compris pourquoi. Et le chat d'eau est très clair. Et le jeûne, c'est le fait que, depuis qu'il n'y a plus de bétamigdash, c'est le jeûne qui est le corban, l'expiation. Et ça, c'est très facile à comprendre, puisque ce que l'on apporte dans le corban d'expiation, c'est ce qui, normalement, sert à ma nourriture. Okay. Mais maintenant, il n'y a plus de bétamigdash, donc on ne peut plus faire la capara d'expiation par le corban. Alors, le jeûne, il y a trois choses qui remplacent, c'est Fila, Tzedaka et... Non. Dans le rituel des Ashkenazim, les trois ont pour le matriarcal, Utfila, Mahadrim, et Tzedaka. Et Fila. Et Tzedaka. Ah ben c'est où, Fila. Là, je vais dire. La Tfila, le jeûne et la Tzedaka. C'est, si on comprend très bien... ce phénomène que c'est le fait de se nourrir qui nous fait exister, on sait que c'est un fait qui ne se bande pas au moment du repas, il est permanent. Entre le moment du repas, ce phénomène de ce qu'on appelle l'autophagie, que vous comprenez, c'est un mot épouvantable, mais vous comprenez ce qui se passe, un homme qui jeûne se nourrit de son propre corps. C'est pourquoi d'ailleurs, quand le jeûne se prolonge, il y a une élévation de la température, on dit qu'on a la fièvre. Pourquoi? C'est la fièvre de la combustion du corps par lui-même, parce qu'il commence à se digérer lui-même, s'il n'a plus de... c'est clair, okay? C'est un phénomène permanent. Je crois qu'on peut voir d'ailleurs toute l'histoire de l'univers comme un phénomène d'existence autophagique permanente. Okay? Bon. C'est-à-dire, nous sommes en situation de corban perpétuel. Et alors, c'est ce corban du tzon qui remplace le corban du bétamigdash dans ce sens-là. Je veux dire, c'est très frappant de voir cela. Ce qu'un juif sorti de la culture occidentale découvre comme la plus grande stupéfaction dès qu'il entre dans l'univers du judaïsme, c'est quoi? La religion s'occupe des choses de nourriture. Vous voyez, le grand étonnement. Qu'est-ce que c'est ces histoires de casseroles, hein? Or, il faut découvrir qu'il ne s'agit que de ça dans le comportement religieux. Est-ce que c'est clair? On change de mentalité. Mais encore une fois, je crois que les grandes traditions païennes Et aujourd'hui encore, si ça reste quelque part les traditions paysannes, avaient ce sentiment-là, que c'est le fait de nourriture qui est le véhicule fondamental de l'expérience religieuse. Et je pense que c'est une petite vérité. Tiens.
Dans
cette
expression, la
non, il faudrait, je crois que j'en parlais un peu un jour de ce problème, je ne sais plus si c'est un séminaire ici. Il faudrait comprendre une chose, c'est que ce risque de substituer la légalité à la moralité n'existe pas seulement par rapport aux lois votées par la Knesset, ce risque existe aussi par rapport au Charanavour lui-même. Okay. C'est ce que j'ai appelé la tentation sadducéenne à l'intérieur de la communauté religieuse, pour qui c'est la Torah et la Constitution. Et surtout, c'est le fait qu'on se sert de la lettre des textes votés dans une juridiction quelconque pour servir ses propres intérêts politiques. Et l'interprétation qu'on donne à la lettre, elle dépend a priori de ses propres intérêts politiques. Alors, tant qu'on n'est pas arrivé au niveau où la notion de la loi qui gère, qui régularise, qui régule, comment on dit, les relations sociales doit être la loi morale et non pas se substituer à la loi morale que la civilisation occidentale fondée par Rome a fini par établir comme l'évidence sociologique par excellence de la lettre du texte législatif. Je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que tous les problèmes que nous vivons sont des problèmes brûlants et qui séparent beaucoup plus qu'ils ne rassemblent qu'elles. Mais c'est très clair que lorsque vous avez une chavat d'arak, comme on dit en français, une expertise donnée par tel ou tel juriste pour dire au gouvernement comment il faut réagir dans tel ou tel problème politique en général, eh bien c'est son appartenance idéologique qui lui fait lire son texte comme il le lit, et non pas du tout le scrupule de la moralité. Je pense que c'est bien clair. Mais c'est dans ces grandes instances que le problème se pose. C'est dans ce qu'on appelle le badat, okay, comme on dit en français, la Cour suprême. Okay, par exemple, quand le grand problème Nihouyehoudi s'était posé, okay, eh bien on a très bien compris que chaque juge du tribunal suprême qui a donné son avis l'a donné d'après sa propre idéologie, et pas du tout d'après une analyse objective et du problème et de ce que dit le texte. De la quasi-constitution israélienne, mais en tout cas elle vit quand même un moment de l'intérêt de la nation. Et lorsqu'on cherche derrière de quelle nature sont ses intérêts, on découvre des choses pas toujours très belles. Pour donner un exemple, il y a un grand problème qui restera dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé cette semaine par rapport au voyage de Reagan en Allemagne. Je ne vais pas trop m'avancer, mais c'est ce qui apparaît à première vue, à l'écoute et à la lecture des nouvelles officielles, c'est le problème de l'intervention, de la non-intervention dans cette histoire de l'État d'Israël en tant qu'État d'Israël. Okay. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? On pourra vous donner toute justification légale. Okay. Ça se fait pas entre chancellerie, ça se fait pas entre je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le fait de savoir si on recevra 1,5 million de dollars d'Amérique ou pas.
Okay.
Qu'est-ce que vous dites?
1 milliard.
Oui, 1 milliard. Non. C'est tellement évident qu'on ne peut plus poser la question comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne.
Non.
Par le biais de ta question. Okay. Alors on va dire, c'est légal. Décision de la Knesset de ne pas embêter Reagan. Okay. Démocratie, c'est légal. Et le UFA Mishpati va vous dire, et d'ailleurs, la constitution du droit international fait qu'on ne se mêle pas de ces problèmes-là de ministère des Affaires étrangères à ministère des Affaires étrangères, sont deux pays souverains, etc. Mais c'est immoral, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette substitution de la légalité à la moralité, à l'intérêt économique, comme par hasard pour ce cas-là? Et en général, tous les intérêts sont finalement des intérêts économiques, parce que qu'est-ce que c'est qu'un intérêt? C'est ce qui pousse à recevoir une jouissance, quelle qu'elle soit, fut-elle intellectuelle, une partie des choses. C'est un intérêt économique. On appelle ça une prestation de service. C'est la recherche d'une hana, c'est la recherche d'une jouissance. Le problème économique n'est pas au niveau seulement des lipides, comment on appelle ça, les sapides, je ne sais pas quoi, et les glucides, et les insipides. C'est au niveau de toute jouissance de la conscience. Je crois que là nous avons touché un problème important. Ce qui guette la société israélienne, c'est plus visible qu'ailleurs, parce qu'ailleurs on y a renoncé, c'est ce danger que j'appelle sadducéen, en termes historiques, de l'envahissement, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure, de l'envahissement de l'esprit de l'égalisme dans une société dont le souci essentiel, c'est celui de la moralité. Le drame, c'est que ces juges-là, et je vous citerai en particulier, parce que chacun a son nom à lui, sont persuadés qu'ils sont motivés par le souci de la moralité. Or, ils fonctionnent en l'égalité. Je pense que c'est vrai. Voilà donc pour ce premier point, on n'est pas arrivé encore à notre question. Oui, c'est un moratoire beaucoup plus récapitulatif que les moratoires successifs des 7 années sabbatiques et des 7 juifs. Ah oui, absolument. Absolument. Oui, le texte maintenant, je pense qu'il peut être lu directement par vous-même. C'est-à-dire, le fonctionnement de la société crée des inégalités. Alors, selon le règne du Shabbat, la Torah intervient, il pousse, on arrête, on recommence tout. Je crois que le terme, c'est le moratoire. Hein. Et alors, il faut effectivement, ça ne peut marcher que pour une société qui se définit par celui de la moralité. Si on a oublié que le problème à résoudre est celui de la moralité et qu'on lui substitue le problème sociologique, alors on tombe dans le. Et on ne peut plus comprendre cette loi-là. Enfin, leur évidence, je veux dire. Mais je suis persuadé que là, nous touchons un des exemples. Du problème des tensions entre la société israélienne et la Torah d'autre part. Il faut une éducation préalable et elle est, je pense l'avoir montré suffisamment, très, très, très facile à faire, des évidences de la finalité de ces mesures, de telle sorte que l'intérêt bien compris restitue à la moralité ce que la légalité lui avait usurpé. Je pense que c'est bien clair. Je ne crois pas que ce sera dans notre génération parce que les leaders de la société ont été formés dans la civilisation occidentale avec ses propres évidences et cette espèce de confusion, de télescopage entre ces deux soucis, le souci légal tel que je l'ai décrit, le souci moral, est tellement embrouillé que, étonnamment, il y a quel carrière politique, il n'y a pas du tout de relais pris par les nouvelles générations. Vous savez, ça est un pays où les hommes politiques ont la vie longue, comme vous le savez. Et encore cette mentalité préhistorique qui vient de l'Occident qu'on a quitté dans le projet sioniste, qui pèse encore sur la vie israélienne. Mais ça viendra dans les générations suivantes. Je pense que si la Torah nous a dit à sa manière ayez des enfants et des petits-enfants, c'était pour leur souhaiter de voir ce que nous ne voyons pas nous encore. Mais c'est en marche. Je crois que une formule qui m'avait beaucoup frappé la première fois que je me la suis formulée à propos de ce problème, Israël est un peuple d'une histoire particulière, c'est le seul peuple au fond qui a intérêt à être moral. Alors partout ailleurs, il y a une tension entre l'intérêt et la moralité. Lorsque Israël prend conscience que c'est son être, je ne sais pas comment dire, il s'agit d'une manière d'être homme, et puis c'est peut-être pour ça que Dieu l'a choisi comme test pour l'humanité entière, qu'il a un homme qui a intérêt à être sadique. On peut lui faire confiance parce qu'il a intérêt à être sadique. Ceux qui n'ont pas du tout intérêt à être sadique, vous avez compris un peu plus. Et lorsque la société israélienne s'apercevra, comme pour beaucoup d'autres problèmes, que c'est ça ou la catastrophe, alors elle se dira c'était que ça. Donc on n'est pas plus en problème. אני אמרתי זה אותה נטייה בסקטור החילוני ובסקטור הרבני, זה אותה נטייה. כן, ברור. זה רגיל רגילי. אין אספס זה. סוסי דוקטורסי. גם לא למון ברבים וקיבן. תיריס בקפוטי, לא? זה טנטסיון סביזיאל. כן, אופן קונט, את אין אקספרסיון קולטורל d'un fait psychologique qui n'est pas autre chose que de la maniaque. Quand on devient maniaque de la légalité. Et parfois, cela cache le fait qu'on a perdu la foi. C'est-à-dire, on ne peut plus parler d'orthodoxie, il faudrait parler d'orthopraxie. C'est-à-dire, cette espèce de. Le fait d'accuser la maniaque du souci du détail dans la forme de l'application cache qu'on a perdu la foi dans le principe de cette même loi. Je ne sais pas si j'ai décidément clair. C'est un phénomène de compensation qui se produit. Oui, les sadducéens, à la limite, je schématise beaucoup, c'est un idéal, étaient des pratiquants prestigieux athées. La démarche en parle comme ça. Observer, pratiquer les milieux. Si tu ne sais pas faire, observer. Ils font très bien les milieux. Mais ce sont des autres fortunes. Ils le font d'autant mieux, mais ça capote. Une société sadducienne ne tient pas, les sadducènes disparaissent de l'histoire. La tendance aux sadducènes nous revient, mais les sadducènes disparaissent parfois de l'histoire. Ils sont d'autant plus minutieux dans la légalité qu'ils ont perdu la foi dans le principe de la moralité. Je pense que vous avez utilisé mon cœur. Bien.
Est-ce qu'il y a
un
rapport entre la pratique de la Shemitah et la séchance des
prix? Ce rapport est enseigné dans le Kretschmar déjà. Venatati Gishmechem Beitam, ça c'est dans Bechukotai, la paracha suivante. Là, c'est un cas particulier du problème dont on a parlé tout à l'heure. C'est que le fonctionnement de la nature elle-même dépend du niveau de la moralité. Je me souviens qu'on en a parlé une fois, mais certainement quelques années. Je vais vous donner un des exemples qui m'était revenu à l'esprit. On a remarqué que lorsqu'il y a des guerres dures, les hivers sont beaucoup plus rigoureux que d'habitude. Je me rappelle du fameux hiver 44 de la zone guerre mondiale, où on a dépassé les records de... Nous étions les petits soldats venus d'Afrique, là, on découvrait la neige pour la première fois, et puis on était avec moins 40 sous les poils de tente. Toutes les réactions possibles, c'était la seule année où je me suis jamais arrivé. Alors, on ne s'en rendait pas compte, on s'est dit, bon, ça c'est l'hiver européen. Mais les Européens nous ont dit, c'est jamais arrivé à l'hiver pareil. Et chaque fois, j'ai dit d'autres choses par la suite, il y a cela. C'était très paradoxal. Dafka, quand il y a la guerre, on pourrait souhaiter un hiver doux. Et bien, Dafka, c'est un hiver dur. Comme s'il y avait un lien entre cela. C'est le même problème. Je crois que l'homme moderne, civilisé, sophistiqué, a perdu le principe de diagnostic de ce que nous appelons le monothéisme. C'est un principe unique qui règle la vie de la nature et la vie de la moralité. Alors la civilisation occidentale s'est fondée sur la rupture de ce principe. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Séparer la morale et la politique, séparer la vision du monde scientifique, de la foi mystique, etc. Cette rupture, cette espèce de dichotomie des évidences, c'est l'anti-monothéisme par excellence, que les nouveaux philosophes français appellent le paganisme. Retour à la mentalité païenne. Vous connaissez ce mouvement d'idées qu'il y a actuellement en France, et qui est un mouvement d'idées qui ne se cache pas d'être antisémite, ça sort du Figaro littéraire et de tout ce qui va avec. C'est le monothéisme qui est la plaie pour retourner au paganisme. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'autre source de la civilisation occidentale, la source romaine de la dualité qui s'exprime dans les évangiles par l'expression que je vous ai citée d'ailleurs. Et la société israélienne est prise dans cette tension de sa propre évidence, que c'est la moralité qui prime. C'est déroutant de naïveté de lire les déclarations des juges légalistes. Ils parlent au nom de la moralité. C'est d'une naïveté épouvantable. Alors que les Occidentaux sont beaucoup plus cyniques que ça. Enfin, beaucoup plus occidentaux que ça. Et puis d'autre part, voilà, je vais faire un petit peu la seconde. Alors revenons à notre problème, si vous voulez. Et on va aller Rachid. Et Rachid dit ceci, qui va avec moi. Ma'inyan Shmita et Tzol Har Sinai. Quel est le lien entre la Shmita et la religion au Sinai? Cette expression, Ma'inyan Shmita et Tzol Har Sinai, est devenue, est passée dans la langue. Quand on dit quel rapport entre ces deux choses qui apparemment n'en ont pas, on dit Ma Shmita et Tzol Har Sinai. Qu'est-ce que ça vient faire la Shmita avec le Sinai? Nous allons voir tout à l'heure que c'est la clé de notre problème, la manière dont, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, Rachid cite la formulation du Midrash. Ma la Shmita et Tzol Har Sinai. Bon. Et je continue. Vahalo kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinai. Et n'est-ce pas que tous les mitzvot ont été dites au Sinaï? Et là, Ma Shmita ne'emru klaloteha ou fratoteha, mais dit du kreha mi-Sinai. C'est pour apprendre que de même que la loi de la Shmita a été donnée au Sinaï, tant dans les principes que dans les détails, que dans les précisions de détails, Afkulam Nemru, Klaloteh, Vedidukeh, Mesinaï. De même, tout comme d'autres, C'est pour t'apprendre cela, voilà le chidouche. Pas tellement le fait que toutes les mitzvot sont du Sinaï, mais que toutes les mitzvot, jusque dans leur application de détails, ont été données dans le Sinaï. Et non pas que les principes s'étaient révélés au Sinaï, et que l'application de détails, ça, c'est la loi rabbinique humaine, etc. Ça, c'est le problème le plus important qui est donné par ce midrash. Notre question est tout autre. Pourquoi prend-on cela à propos des lois de la Chine? Le midrash a semblé esquiver notre question. En simplement mettant en évidence le fait que, à propos de l'exemple de la Shemitah, on oublie cet exemple-là, la Torah nous a dit la Shemitah, les principes et les détails du Sinaï. Alors tu apprends que c'est vrai pour toutes les mitzvot. J'ai compris. Mais notre question est pourquoi Dafka, c'est cet exemple qui est choisi pour apprendre ce principe-là. Si tu es arrivé à faire ce plan, on a compris ce midrash. C'est bien clair. Et c'est là donc qu'on va commencer l'étude de la réponse. C'est bien clair pour tout le monde. Et je reviens sur le contenu du Diouk du Midrash ici, c'est ceci. Nous avons toujours à nous heurter à cette tendance qui dira, on accepte les principes généraux de la loi, mais le détail, et c'est un peu relié très paradoxalement à la nuit tout à l'heure. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a peur de cette tendance au légalisme maniaque du détail. Et je reviens là-dessus, vraiment là, je suis plus à l'aise de mon expérience d'éducateur, plus que d'étudiant de la Torah, si vous voulez, et de plus à l'aise très souvent. Derrière l'esprit d'orthodoxie se cache un désordre psychologique qui s'appelle tout simplement la manière. Vous avez compris ce que je veux dire. Il faut vraiment se méfier. La Torah est une des lois qui ont le plus tendance à risquer de mener à cette impasse. Et les juifs semblent beaucoup passer leur temps à tenter de justifier les calomnies qu'on fait leur sujet. Le légalisme n'est pas juif, il est romain. Hein? Mais d'après, alors, si on tombe dans le monde de la Torah, dans ce risque du légalisme, alors c'est le plus grave. Est-ce que c'est clair, c'est simplement de réfléchir pour vous-même à cela. C'est en fin de compte, simplement une attitude psychologique projetée sur le problème religieux. Et qu'il faut débarrasser de cet alibi, alors il faut traiter le trouble psychologique en lui-même. Le phénomène de culture grave, finalement, n'est plus ce phénomène de thérapeutique psychologique à l'échelle individuelle, c'est le fait qu'on arrive à substituer la légalité à la moralité. C'est ça le phénomène grave. Et c'est ça qui a séparé les Parisiens des Sadducéens. Ce qu'il y avait comme discussion de contenu est second par rapport à cette attitude fondamentale. C'est pourquoi je disais pendant la réunion tout à l'heure que c'est pas seulement le monde juridique qui est envahi par ce danger, c'est le monde rabbinique lui-même. Pourquoi? Parce que c'est inhérent au fait d'être relié à une loi. Lorsqu'on est vraiment relié sérieusement à une loi, ce problème-là apparaît. Je pense que c'est... Il faut une énorme capacité de confiance en la vérité de la loi pour ne pas tomber dans ce piège. Ceux qui tombent dans ce piège, c'est des signes qui n'ont plus cette capacité de confiance dans la vérité de la loi. Ils se mettent à l'abri de la lettre. Est-ce que c'est clair, c'est une... Ils sont devant la Torah beaucoup plus que devant celui qui a donné la Torah. Et ça, c'est très grave. Parce que ils savent encore que quelqu'un a donné la Torah. Mais leurs propres élèves ne les ont pas entendus comme ça. Et leurs propres élèves se relient à la Torah comme si ce n'était pas quelqu'un qui l'avait donné. Alors là, on tombe vraiment dans le romaïsme. Que la loi morale elle-même est le type loi de la nature. Elle est impersonnelle. Ce n'est pas l'expression de la volonté de quelqu'un. Et quand on se mesure à une loi impersonnelle, plus la loi religieuse est entendue comme impersonnelle, c'est déjà plus la Torah. Par le biais de la Torah, on se mesure à la volonté de quelqu'un et non pas à une loi impersonnelle. Je crois que c'est un des problèmes graves de l'état culturel de la société humaine et juive en particulier contemporaine. Je pense que vous sentez cela dans l'atmosphère de ces choses en France. Bien. Alors la réponse, on va la chercher dans la prochaine Mishpatim qu'on vous a annoncé. Mais comme il me reste quand même peu de temps, je le dirai assez rapidement, mais je pense que c'est facile à comprendre. C'est le fait que l'expression Torah de Sinaï, l'expression qu'on a ici sous la forme de Behar Sinaï les mots, a donc un contenu qui n'est pas simplement informatique, chronologique ou topologique. Elle a un contenu en soi, c'est une manière d'identifier la Torah. En l'appelant Torah de Sinaï. La Torah commence par se donner un titre dans le premier des 10 commandements. C'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Anochi, Hashem, Elokecha, Hashem, Tetsi, Sam, Emeret, Mitzrayim, Betravadim. C'est la Torah, c'est la législation proposée au candidat à la libération. Voilà le titre que la Torah te donne elle-même. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'Égypte. L'objectif de la Torah, c'est pas l'intérêt de la société, c'est pas l'intérêt du monde des instincts, de chaîne individuelle, c'est pas l'intérêt intellectuel, c'est pas l'intérêt de la vision spirituelle, c'est pas tout ça. L'objectif de la Torah, c'est libérer la créature de toutes les aliénations qui s'attachent à la condition humaine. Et c'est ça que ça veut dire, le final. Alors, il y a des mitzvot pour lesquels c'est évident. Par exemple, celle-là. Et le Midrash vient te dire, pour celle-là, tu l'as compris, ça c'est vrai pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot de la Torah sont Torah Mishinaï. Ça veut dire l'achèvement de la libération de ce qu'on appelle la sacrifice, de l'esclavage, de l'aliénation, pour généraliser la notion. Ça veut dire qu'il n'y a pas un fait social avec ses propres intérêts qu'il faut gérer de la meilleure façon possible parce qu'on appelle un style de vie coraïque, hein, il y a des familles qui parlent comme ça. Il n'y a pas un fait d'extase religieux à gérer par telle liturgie privilégiée par rapport à d'autres, c'est comme ça. Tout ça c'est second par rapport à l'objectif de la Torah. L'objectif de la Torah c'est d'achever la sortie d'Égypte. Et c'est ça, la Emouna d'Israël, la Israël, la Géoula. Et l'objectif de la Torah c'est de libérer l'homme des aliénations qui lui viennent de sa condition de créature. Ça renvoie à un problème que nous étudions dans les autres cours, en particulier dans les cours du Rav Kook à travers l'analyse de la Kabbalah. Mais je crois qu'au niveau de Torah Tamilé, on peut le formuler de façon très précise. Voilà le sens du niveau. Tu vas l'apprendre de celle pour qui c'est évident. Par exemple, dans les Shatim, la libération des esclaves à la 7e année. Vous vous rappelez ? Bon, c'est un cas particulier de la Shemitah. Et ici, l'ensemble des lois de la Shemitah, la libération des conditionnements économiques dans le rythme du Shemitah. Ça, je vais peut-être inverser la dominante de la lecture avant l'étude que nous avons lue. On pourrait croire que l'objet du Midrash, c'est de nous faire comprendre l'évidence que la Shemitah est une loi du Sinaï. En réalité, le Midrash part de principes tout à fait différents. C'est évident pour la Shemitah, apprends-le pour toutes les autres. J'ai compris ce qu'on a appris aujourd'hui. Voilà donc ce que je voulais vous proposer. Ce soir, donc, c'est la Baomer. Par coïncidence, c'est la Haskara de mon propre grand-père ce soir. Alors, puisqu'on est déjà à l'heure de la rabbine, je vais dire qu'à bise, puis ça m'aimera.
Alors ceux qui veulent rester à la soirée de chant.